quatrième de couverture. Une émission proposée et animée par Christine Baron.
Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro, c'est parti. Le 12e coup de minuit a lancé le signal, on est en 2022. L'année nouvelle commence, la place est libre. Vive les nouveaux agendas qu'on espère remplir de plein de bonnes choses cette année. On est donc en 2022. Ouh là là, tous ces deux, c'est impressionnant. Un drôle de nombre avec le même chiffre qui se répète. Tous ces deux, c'est amusant, on dirait des oiseaux posés sur une branche. C'est peut-être un signe de bon augure. On le souhaite de toutes nos forces. Et avant de dérouler cette première émission de l'année, je vous adresse mes meilleurs vœux radiophoniques. Que cette année nouvelle vous soit douce et heureuse. Janvier est donc un mois plein de promesses, teinté parfois de nostalgie. Car au moment de découvrir la perspective de toutes ces semaines qui s'offrent à nous, on lance un regard ému parfois sur nos beaux moments de l'année passée. En l'occurrence, pour cette 26e édition de la 4e de couverture, on sera plutôt tenté de tendre l'oreille à quelques bons moments sonores partagés en 2021. Alors, tout en gardant nos rubriques habituelles, quatre rubriques pour la 4e de couverture, on appuiera sur la touche rembobiner. On revisitera avec plaisir quelques bons moments de décembre, un grand couturier à l'opéra pour prolonger notre émission sur la mode et la culture du mois dernier, des chiffres et des nombres à l'écran et au théâtre pour annoncer 2022, l'exploration des méandres de la mémoire enfin sur les traces de Marcel Proust. On testera notre propre mémoire en retrouvant deux de nos invités de 2021. On réécoutera aussi quelques pages d'une lecture pour annoncer les fêtes du livre de janvier. Et on notera quelques-uns des rendez-vous culturels qui rendent si désirable ce début d'année 2022. Alors on y va, on ouvre les micros, on rembobine nos émissions passées, on cale nos écouteurs, en route pour la 4e de couverture. En décembre, on avait beaucoup parlé des tenues de fête qui devaient embellir notre fin d'année, et on avait noté plusieurs rendez-vous culturels associés à la mode. Eh bien, après Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque à Paris, toujours visible jusqu'au 22 janvier, on a pu voir à Rouen un autre grand couturier, non pas au cinéma, mais à l'opéra. C'est Christian Lacroix qui a présenté sa première mise en scène. Après avoir signé plusieurs costumes de scène dans les années passées, il a remis au goût du jour l'opérette et surtout Jacques Offenbach avec la vie parisienne, tout en dessinant, une fois encore, les costumes et les décors. Et la première représentation à Rouen a ouvert le calendrier d'autres dates, à Paris jusqu'au 9 janvier, et puis en tournée dans toute la France. Ce spectacle aura-t-il un écho à Étretat pendant le festival Offenbach ? Parce qu'on sait qu'il a longtemps séjourné dans sa villa Orphée, au cœur de la célèbre station balnéaire. Qui sait ? Ce qu'on sait en revanche, c'est que les dates changeront en 2022. On peut déjà noter que pour sa 17e édition, le festival Offenbach se déroulera non plus en été, mais en mai, pendant le week-end de l'Ascension. Et en attendant le programme détaillé, on ajoutera sur nos agendas cette nouvelle date, le 26 mai. Musique pour tous. Offenbach à Étretat ou jazz sous les pommiers à Coutances. Il faudra choisir, ce sera un week-end très chargé. Vous ferez comme il vous plaira. Donc du 26-05-2022 au 29-05-2022 pour Offenbach, en voilà encore des chiffres et des nombres. On est loin, évidemment, des formules diaboliques démêlé avec brio par le génial inventeur qui a inspiré le sujet de la pièce « La machine de Turing ». Turing, c'est Alan Turing, mathématicien prodige qui a réussi à casser en 1942 les codes du système secret de cryptage nazi Enigma, évitant ainsi à la Grande-Bretagne des bombardements meurtriers. Il poursuivra ensuite ses recherches scientifiques qui aboutiront après la guerre à l'invention du premier ordinateur. C'est le destin tragique de ce génie des mathématiques et des algorithmes qui a inspiré la pièce écrite par Benoît Solès en 2018 et présentée au Havre au mois de décembre. Le Covid ayant bousculé la tournée de ce spectacle, les comédiens continuent à émouvoir le public avec le surprenant destin de ce génie oublié pendant de longues années. Et cette pièce prolonge le film passionnant que Morten Tildum avait réalisé en 2014 en confiant le rôle de Turing au mystérieux Benedict Cumberbatch dans son Imitation Game. Ce film a couronné la réhabilitation du mathématicien reconnu enfin comme héros de guerre et gracié par la reine Elisabeth en 2013, mais à titre posthume, puisque sa condamnation pour homosexualité l'avait poussé à se suicider en 1954 en croquant une pomme empoisonnée. Et on ignore toujours si le logo adopté par la marque Apple est oui ou non un hommage rendu à Turing par Steve Jobs. Mystère. En décembre, quelques salles ont programmé un autre film sur un autre génie scientifique. Il s'agissait des aventures d'un mathématicien, le film allemand de Torklein, consacré à l'invention de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui posait le problème récurrent de la morale scientifique, du conflit souvent cruel pour le chercheur, entre science et conscience. Un autre cas de conscience a été magnifiquement porté à l'écran en décembre également, c'est le film puissant d'Eli Grapp, Olga. Comment poursuivre sa carrière de sportive de haut niveau et briguer une médaille aux Jeux Olympiques quand son pays est à feu et à sang? C'est toute l'histoire d'Olga, une jeune gymnaste tiraillée entre la Suisse où elle s'entraîne et l'Ukraine où sa mère continue le combat pendant la révolution de Kiev en 2014. Un film vibrant et original. Olga flirte avec le documentaire en alternant les séances d'entraînement spectaculaires et les films d'archives sur les événements tragiques de 2014 en Ukraine, tout en maintenant une tension dramatique rare et en ravivant violemment notre mémoire. Si la mémoire fait bon ménage avec les chiffres, les formules mathématiques, les algorithmes, elle m'a fait défaut dans la dernière émission en décembre. Je parlais de cravate à pois, de chanteur oublié. J'ai dit Monsieur 100 000 volts et alors, j'ai oublié de le nommer. C'était Gilbert Bécaud, un comble quand même, alors que je voulais ressusciter sa mémoire et rappeler quelques-unes de ses plus belles chansons, comme Ce dimanche à Orly, retour en 1963.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport.
Si cette balade à Orly nous replonge dans le Paris des années 60, une exposition a ouvert ses portes en décembre et jusqu'en avril 2022 pour nous transporter dans le Paris des années 20. Une exposition originale qui célèbre la mémoire à l'état pur et la place de la ville dans une œuvre monumentale, celle de Marcel Proust. C'est au musée Carnavalet, le musée consacré à l'histoire de Paris. Pour commémorer le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain et le centenaire de sa mort, l'exposition « Marcel Proust, un roman parisien » interroge la place de la ville dans son œuvre. Une visite sur les lieux favoris du romancier, cadre de sa quête incessante de la mémoire, du souvenir, objet constant de sa recherche. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. C'est une pyramide, un immense caveau, écrivait Baudelaire. C'est une madeleine pour Marcel Proust. Et pour nous, le temps retrouvé, il nous attend peut-être sur les traces de l'écrivain à Cabourg, dans la charmante villa ouverte au public depuis peu, autour de l'auteur de La Recherche du Temps Perdu. Ou alors, le temps retrouvé très modestement pour nous, c'est ce que je vous propose en ce début d'année nouvelle, pour le plaisir de réentendre quelques jolis moments de 2021, quelques lectures et quelques entretiens. Avant de plonger en 2022, allons sur le site de Radio Albatros piocher dans les podcasts de la quatrième de couverture, l'émission mensuelle et son petit supplément, l'hebdo, qui la complète chaque semaine. En janvier 2021, on avait eu la chance de rencontrer Lola Lafon avant sa lecture musicale au festival Le Goût des Autres.
Bonjour Lola Lafon.
Bonjour Christine Baron.
Merci de nous accorder cet entretien juste avant de répéter la lecture musicale de votre dernier roman, Chaviré, dans le festival littéraire Le Goût des Autres. Alors quand on fait une lecture musicale de son propre roman, est-ce qu'on se sent plutôt auteur, comédienne, musicienne ?
On se sent peut-être comédienne parce qu'on lit devant un public, alors il peut être virtuel, mais quand même il y a des gens. Et donc il faut quand même faire passer le texte, il faut le projeter beaucoup plus. Et je me sens lectrice plus qu'écrivaine parce que je redécouvre des passages du roman. Donc parfois je suis étonnée de certains passages quand je les lis, encore.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a un temps, un décalage énorme entre le moment où vous l'avez conçu, écrit et le moment où vous l'interprétez.
Oui, parce que les dernières corrections, c'était au printemps, c'était en avril. Et voilà, c'est déjà un peu loin en termes de certains passages. En tout cas, je les ai un peu oubliés.
Oui, je comprends. Et justement, je me demandais, est-ce que quand on reprend son texte avec sa propre voix, est-ce qu'on le recrée pas finalement ? Vous dites vous le découvrez, mais on le recrée peut-être aussi un peu ?
Ah oui, tout à fait. On recrée déjà le texte, le roman, puisqu'évidemment pour une lecture, je choisis quelques passages et j'ai à cœur de recréer une sorte de narration pour que les gens qui viennent puissent vraiment suivre. Donc je recrée une histoire en éliminant des pans entiers de Chaviré, des personnages, c'est un choix. Et donc je fais tout à fait un autre choix que pour le roman.
Oui, finalement. Donc c'est ça, c'est bien une recréation finalement.
C'est une recréation.
Voilà, et donc même quand on l'a lu, et c'est pour ça qu'on a tant de plaisir aussi à assister, quand on a lu le roman, on est aussi embarqué encore une fois autrement, quoi, c'est ça ?
Mais j'espère, oui, parce que l'idée, c'est... Et puis la musique ajoute tout à fait autre chose. Là, je travaille avec Sylvain Griotto au piano, qui, lui, joue souvent, enfin très souvent, avec Rosemary Stanley et Olivier Lambert, qui est un coutumier des lectures musicales. Et quand même, il recrée une ambiance qui est évidemment tout à fait autre chose que...
Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait. Je me disais, dans quelle mesure, quand on fait une lecture musicale, on n'est pas un peu dans une construction cinématographique où la musique fait une sorte de bande-son, mais est-ce qu'elle est plutôt là pour... puisque vous choisissez aussi, j'imagine, bien sûr, c'est un travail commun, mais est-ce que la musique est là pour souligner, pour expliquer, pour accentuer ?
Alors, on essaye que ça ne fasse pas, effectivement, trop redondant parfois. Donc, il y a, par exemple, dans la lecture musicale, il y a un moment qui est toujours que j'aborde avec un peu d'appréhension parce que j'ai peur d'être embarquée dans l'émotion, surtout sur Chaviré, qui est finalement le moment où le personnage de Cléo va raconter à son amoureuse Lara ce qui lui est arrivé quand elle avait 13 ans. Et j'ai choisi de le lire. Et on s'est dit qu'on mettrait pas de musique parce qu'on voulait pas appuyer l'émotion. En revanche, c'est un grand plaisir que le pianiste puisse jouer le thème de Champs-Élysées.
Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission préférée de sa mère. Champs-Élysées. « Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseuses qui vont bientôt quitter le plateau. Cléo s'approcha du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ces refrains de joie qu'il concluait d'un bond très très loin de l'affectation des domitilles chez Madame Nicole. Voilà, c'est ça qu'elle voulait faire.
Ça, c'était l'hebdo de la semaine 5. C'était juste après avoir rencontré un peintre en plein essor aujourd'hui, Olivier Desvaux, en janvier 2021. C'était sur les bords de la Seine, près de Villequier, dans son atelier.
Bonjour Olivier Desvaux.
Bonjour Christine Baron.
Voilà, on est revenu parce que la dernière fois, on avait beaucoup parlé de votre exposition qui a été présentée au Havre sur le travail de ballet que vous avez fait à l'Opéra Garnier à Bastille. Et puis aussi sur la sortie du livre chez Didier Jeunesse qui est consacré au ballet, des illustrations sur des morceaux célèbres puisque c'est un livre musical. Mais si vous avez été admis comme peintre presque officiel pendant ce séjour dans les opéras de Paris, vous avez aussi un titre très glorieux, Autour des bateaux. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, j'ai été nommé peintre officiel de la marine en 2018. Alors, peintre officiel de la marine, c'est un corps qui a été créé en 1830 par le ministre des Armées. Et ça permet à des artistes d'embarquer et de revenir avec, après les guerres, finalement, avec des témoignages. C'était un peu des reporters de guerre. Et c'est une tradition qui est restée depuis. Et de nombreux peintres ont été nommés. Mais parmi les peintres, il y a aussi des sculpteurs, des photographes, des réalisateurs comme Yannatius Bertrand, Jacques Perrin. Il y a aussi Titouan Mazou, qui est un excellent peintre, mais qui a été aussi navigateur. Et puis des sculpteurs comme Jean Lemonnier, par exemple. Et donc, il y a vraiment une richesse, une diversité chez les peintres de la marine. Et c'est une reconnaissance, parce qu'on est seulement 43 à être nommés aujourd'hui. Donc, c'est resté une tradition et on est toujours aujourd'hui invité à embarquer pour aller justement découvrir le monde, la présence de la marine dans le monde entier et pouvoir porter un regard artistique sur cet univers et s'inspirer des gens, des marins qui travaillent à bord et aussi porter un regard sur les ports, les océans, la faune, la flore, enfin tout ce qui est lié à la mer.
D'accord, oui, c'est une belle reconnaissance, hein, c'est certain, ouais. Vous l'avez dit. Alors donc, peintre de la marine, c'est-à-dire que quand vous partez, là, vous n'allez plus faire des reportages de guerre. Qu'est-ce qu'on peint quand on est dans votre position?
Eh bien, on peint avant tout ce qui nous inspire. Et là, ça peut être à bord du bateau, voilà, les marins qui sont en train de travailler, de manœuvrer. Ou alors, quand on arrive dans un port à l'étranger, ça peut être au bout du monde de peindre justement les bateaux dans le port, ou même le port, ou la ville, ou le pays. Donc, c'est assez ouvert. Et quand on est peintre officiel de la marine, on peint ce qu'on a envie. Il faut qu'il y ait toujours quand même un rapport avec la mer.
Et alors, ces toiles qui sont... Enfin, je suppose que ce sont des toiles, peut-être pas forcément des toiles, hein, finalement.
Ça peut être des toiles, mais on peut aussi dessiner, on peut faire de la gravure ou faire de l'aquarelle, de la gouache. Moi, je préfère faire de la gouache ou de la peinture à l'huile, mais il faut voyager léger, donc on prend quand même des affaires pas trop lourdes, pas trop encombrantes. Mais moi, j'arrive toujours à m'organiser pour pouvoir voyager avec ma peinture à l'huile ou ma gouache, pouvoir travailler de façon efficace, même dans des endroits inconfortables. Donc il faut s'adapter, hein. Mais c'est aussi le plaisir d'aller peindre comme ça sur le motif.
Littérature, peinture, musique, toutes ces rencontres vous attendent avec toutes les autres dans les podcasts. Et les lectures? Eh bien, réécoutons celles qu'Agnès de Sarthe, alors encore finaliste pour le Goncourt, avait faites au Havre. C'était la 4e de couverture du mois de novembre et il était question de mémoire, de musique, d'amour d'enfance.
Le garçon se met à pleurer en silence. La petite fille est sauvée. Mais elle songe qu'ils sont à présent fiancés, à cause de la beauté de la musique, officiellement fiancés, à cause de la salle des mariages. Des dizaines d'années plus tard, elle considère que ce garçon qu'elle rencontre par hasard à intervalles réguliers et qui se rappelle à peine son prénom d'une fois sur l'autre, lui appartient pour toujours. Comme en musique, elle reprend au début et à partir de là, le lien se noue. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il l'a choisie parce qu'elle a les yeux ronds et elle lui répond « Moi aussi je t'aime parce que tu as les cheveux de travers. » Et tout recommence.
Il est temps à présent de se projeter en 2022, d'autant plus que cette année devrait vous offrir un site tout nouveau, tout beau, pour accéder plus facilement à vos émissions préférées sur Radio Albatros. On l'attend et on l'espère. Alors, quoi de neuf en janvier? Sauf restrictions de dernière minute, évidemment, l'année commencera en fanfare pour la vie culturelle. Partout en France, le 22 janvier, nous serons invités à la nuit tombée à une séance de lecture exceptionnelle. Aimons-nous toujours, aimons-nous encore. Voilà l'injonction délicieuse empruntée à Victor Hugo pour lancer cette nuit de la lecture. Une programmation riche et hétéroclite sur tout le territoire, du 20 au 23 janvier. Le programme détaillé vous attend sur le site de l'événement nuitdelalecture.culture.gouv.fr. Ce même week-end, Le Havre proposera une nuit de la lecture XXL comme chaque année depuis 10 ans. C'est le festival Le Goût des Autres qui a choisi cette année le thème du secret pour inviter les amoureux des livres aux quatre coins de la ville à des lectures, des spectacles, des rencontres animées par des comédiens ou des écrivains. Javier Cercas, David Diop, Clara Dupont-Mono, Karine Thuil, Leila Slimani, Anne Berès, Mazarine Pinjot, Christine Angot et Guillaume Gallienne qui lira les feuillets et manuscrits inédits de Marcel Proust pour célébrer les 100 ans de sa disparition et les 10 ans du festival du 20 au 23 janvier. Un autre festival fêtera en janvier sa 24e édition, c'est le festival Cinéma Télérama. Du 19 au 25 janvier, nous avons une semaine pour revoir les 16 meilleurs films de 2021, faire un petit retour en arrière en quelque sorte, comme nous l'avons fait avec nos podcasts tout à l'heure, ou pour découvrir 6 films en avant-première. Ce sera l'occasion de voir ou revoir Drive My Car ou Compartiment numéro 6, ou l'étonnant road movie aux 3 Oscars Nomadland. On sera curieux aussi de découvrir en avant-première « Vous ne désirez que moi » de Claire Simon, qui revient sur la relation fusionnelle de Marguerite Duras et Yann Andrea, ou sur « Nos âmes d'enfants » de Mac Mills, la chronique familiale d'un journaliste radio, en reportage à travers les États-Unis, filmé en noir et blanc. Voilà de quoi commencer l'année en beauté. Sinon, en janvier, on sera très heureux de pouvoir revoir sur grand écran la saga mythique des aventures d'Antoine Doinel de François Truffaut, restaurée. 5 films à déguster en salle après leur sortie en DVD en décembre. À nous, les 400 coups, Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal ou L'amour en fuite. Quel programme ! On suivra avec émotion Jean-Pierre Léo depuis ses 14 ans jusqu'à son divorce, de film en film, pendant 20 ans. Une saga qui avait commencé avec la jolie valse mélancolique de Jean Constantin en 1959. Disait François Truffaut, la musique de film, c'est comme une question de grammaire. Si l'on accepte de comparer un film à un roman, je mets de la musique sur mes images quand nous passons du présent à l'imparfait. Passer du présent à l'imparfait, c'est exactement ce qui nous occupe ce mois-ci, entre la nouvelle année et l'année passée, entre Marcel Proust et la rétrospective de François Truffaut. Plaisir de revivre de jolis souvenirs sans tomber dans le « c'était mieux avant » ou « ce sera mieux après ». Eh bien ça, c'est le sujet du 8e roman de Michel Houellebecq qui vient de paraître avec un titre inquiétant, « Anéantir ». Une injonction déguisée, mais anéantir écrit sans majuscule, comme si Houellebecq voulait atténuer cet ordre dévastateur. On verra. C'est un livre événement en tout cas. Lancé à grand renfort de mystère, à grand tirage, un objet très soigné, papier, grammage, typographie, mais surtout, surtout quoi ? Eh bien, pas de quatrième de couverture. Tout le monde en parle. Houellebecq n'en a pas voulu car, a-t-il dit, l'essentiel est à l'intérieur du livre. Eh bien, pour nous aussi, l'essentiel de la quatrième de couverture, la nôtre à la radio, est à l'intérieur. Et n'oubliez pas, elle est aussi dans les podcasts de Radio Albatros. En attendant de nous retrouver le 31 janvier pour la 27e édition, et avant d'aller revoir « Baiser volé » de François Truffaut, on va écouter pour se quitter la chanson de Traîné qui a inspiré le titre du film, parce que c'est une autre façon de réveiller notre mémoire en douceur.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
Alors, retrouvons nos amours passés avec l'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe, ou relisons La recherche du temps perdu de Marcel Proust, ou courons au cinéma revoir les aventures d'Antoine Doinel avec François Truffaut en fredonnant les vieux airs de Bécaud ou de Traîné. Bonne année à tous, merci Johan, toujours aux manettes et à bientôt. Et rendez-vous le 31 janvier.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.